La Bible, parfum de scandale, une émission produite par Radio FM+, présentée par Babette Soulier-Laporte et Luc Olivier Bossé.
Alors, la Bible, on entend souvent qu'il y a une sagesse biblique, il y a une sagesse proverbiale, une simplicité biblique. Et on se dit que ce livre devrait, dès qu'on l'ouvre, nous offrir ce parfum de sagesse. Or, quand nous ouvrons les Écritures, nous tombons sur des récits qui sont pleins d'aspérité, qui mettent en rôle au fin des personnes aussi avec des contours de leur personnalité assez troublants. Et du coup, le parfum de sagesse qui devrait émaner des Écritures se transforme en un parfum de scandale. Et c'est pour aller au-delà de ces parfums-là, pour au contraire les intégrer aussi en nous et de faire quelque chose avec, que nous sommes réunis aujourd'hui avec vous, chers auditeurs, avec toi, Babette. Bonjour, Babette.
Bonjour, Luc Olivier.
Babette, tu es quelqu'un qui t'intéresse beaucoup aux Écritures et justement, pas les textes qui sont des grands classiques, qui entrent très facilement dans nos oreilles, mais les textes qui ont des aspérités.
Oui, c'est vrai que ce sont ceux qui sont les plus dérangeants quelquefois, qui sont... Enfin, il me semble que la lumière souvent vient de là. Mais bon, c'est peut-être un peu retors de dire ça, mais je trouve que c'est comme ça que... Voilà, comme ça que j'attends en tout cas que toi, tu nous aides à voir la lumière dans l'obscurité, on va dire.
Oh là là, tu me mets une responsabilité sur les
beaucoup,
épaules.
Ça fait beaucoup,
mais bon. C'est avec plaisir que j'y réponds. Je suis pasteur de l'Église protestante unie à Montpellier. Et puis, effectivement, tu m'as sollicité pour vivre ces émissions ensemble, pour qu'on puisse redécouvrir certains textes. Et aujourd'hui, tu avais envie que... On continue on avait commencé dernièrement, et là c'est notre deuxième émission, mais tu avais envie que nous continuions notre découverte de ce récit emblématique entre Caïn et Abel.
Oui, c'est cela en fait. Dans la première émission, on avait lu et relu le texte de la Genèse, donc 1:16, où effectivement Caïn tue Abel parce qu'il est dépité en fait de se voir refuser son offrande au bénéfice de celle de son frère. On a balayé un peu les champs des grilles de lecture, je dirais. Un petit côté anthropologique où finalement le conflit entre Abel et Caïn serait le prototype de la lutte qui existe depuis le néolithique entre peuple pasteur et peuple agriculteur, lutte perdue par les premiers,
etc. Oui, parce que Abel est décrit justement comme le pasteur, celui qui s'occupe des brebis, l'élevage, et Caïn, celui qui s'occupe de la terre.
Exactement. Et dans la mythologie hébraïque, c'est ce que j'ai trouvé il n'y a pas très longtemps, Jabel est pasteur et Tubal-Caïn, ou Tubal-Caïn, je ne sais pas comment ça se prononce, et forgeron. Voilà. On a pensé aussi évidemment à l'interprétation morale, et celle-là, on va peut-être la battre en brèche un peu aujourd'hui, je crois, où Caïn incarnerait le mal et Abel le bien, qui est une interprétation augustinienne, peu protestante donc, je pense. Et donc, on a aussi parlé de l'explication archétypale, voilà, c'est-à-dire que l'histoire sert la recherche de l'origine de la guerre, de la violence, etc. Alors, dans la première émission, très brièvement, tu as choisi de te référer à André Vénin et de centrer ton explication sur la dimension psychologique, en fait, de ce qui est lu comme un drame familial, une scène humaine, tu as employé même comme terme. Donc, ce qui est...
Ça va dans le sens archétypal, en fait.
Tout à fait.
C'est-à-dire que, effectivement, on a vu que Caïn et Abel sont frères. Or, la fraternité, malgré tout ce qu'on veut dire et tout ce qu'on aspire, quand on dit un regard fraternel, une attitude fraternelle, la fraternité n'est absolument pas une évidence. Et ce récit nous le dit que la fraternité, dès le début, eh bien, ça peut être de la violence, c'est de la jalousie, c'est de la rivalité, puisque chacun cherche à exister, trouve à chercher sa place dans la constellation familiale.
Exactement. Et donc, une fraternité problématique, pourrait-on dire. Et alors, ce qui est intéressant aussi, j'ai trouvé, j'y ai réfléchi depuis que tu as eu cette interprétation. Et en fait, cette fratrie célèbre de Caïn et Abel n'est que la première d'une longue série, dans la Bible même.
Exactement.
Ismaël et Isaac, Jacob et Ésaü, Absalom et Amnon, le fils prodigue et son frère, je dois en oublier.
Joseph et tous ses frères.
Tout à fait.
Où là, c'est dans le livre de la Genèse.
Ils le mettent dans un trou, oui.
Ils le mettent dans un trou, qui eux aussi veulent le tuer.
Absolument.
Ils n'arrivent pas à le tuer, alors ça sera encore une autre histoire pour le dire pourquoi. Mais en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que
avec Caïn et Abel, on est au début du livre de la Genèse, c'est Genèse 4.
Ouais.
Et l'histoire de Joseph et ses frères, c'est la grande histoire, le roman qui conclut le livre de la Genèse.
Ah.
Et c'est aussi un problème de fraternité. Et comme si le livre de la Genèse venait nous dire je pose les jalons avec Caïn et Abel, c'est une histoire qui montre la complexité de la fraternité. C'est absolument pas une évidence. Au contraire, il faut entrer dans la profondeur de ce qui se joue là pour vivre vraiment la fraternité. Et puis, le roman de Joseph qui conclut le livre de la Genèse vient nous montrer que comment, finalement, le drame du début peut être, par moments, dénoué et vient nous donner à espérer.
Ah oui, c'est intéressant, ça. Très bien. Et ça va tout à fait justement avec ce que tu viens de dire. C'est que cette jalousie fratricide, finalement, elle est assez universelle. Parce que finalement, donc, ils apparaissent dans la Genèse, qui est le premier livre de la Torah pour les Juifs et le premier livre du Pentateuque pour les chrétiens. Et ce sont aussi deux personnages du Coran. Donc c'est vraiment une interrogation, une problématique, dirait-on aujourd'hui, qui est fondamentale.
Et quand on aborde ces textes-là, quand on aborde ces récits-là, ce que je trouve mais proprement fabuleux, c'est qu'on n'est jamais seul. C'est-à-dire que on peut discuter avec nos amis musulmans. On peut discuter avec nos amis juifs. Il y a une différence quand même entre juifs et musulmans à ce niveau-là, puisque avec nos amis juifs, nous avons le même récit, le même texte, tandis que nos amis musulmans avec le Coran, il y a des références à Caïn et Abel, mais c'est pas le même texte.
Non,
donc il peut y avoir aussi des regards différents. Mais du coup, nous pouvons nous enrichir mutuellement d'interprétations, de regards, de couches, de sens qui se sont finalement déposées au fur et à mesure des siècles, et on peut les revisiter ensemble. Et alors là, je vous promets que le dialogue, il est sans fin.
Mais bien sûr, et en plus, justement, mettre en relation ces religions sur le plan historique aussi, avec l'apparition de l'une par rapport à l'autre, au lieu de les opposer, enfin, ça serait une bonne idée, je trouve.
Ça, ce serait pour d'autres émissions,
oui,
je crois.
D'autres émissions. Mais bon, à propos justement, avant de partir, de nous interroger, je crois, sur la deuxième partie du texte, où finalement, Caïn est une figure beaucoup plus ambivalente qu'on nous l'avons présentée dans la première partie, j'aimerais qu'on s'arrête sur la marque de Caïn, qui fait partie de la fin du récit, du premier récit, justement. Donc,
alors, tu serais d'accord que je lise juste la phrase qui fait cette référence?
Bien sûr.
Donc, ça intervient dans le récit. Donc, il y a le meurtre d'Abel par Caïn, et ensuite le Seigneur survient, et il lui dit: où est ton frère Abel? Et Caïn répond: je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Alors, on pourrait une fois revenir aussi sur cette fameuse phrase. Et au fond, Dieu, dans le récit, là, ne se laisse pas, détourner ou son attention ne reste pas captée par l'interpellation de Caïn. Mais Dieu reprend Caïn en disant: qu'as-tu fait? Le sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit, chassé de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Et quand tu cultiveras la terre, elle ne te donnera plus sa force. Tu seras errant, vagabond sur la terre. Caïn dit au Seigneur: ah, ma faute est trop grande pour être prise en charge. Tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché, tu ne verras plus. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et si quelqu'un me trouve, il me tuera. Le Seigneur lui dit: alors, si quelqu'un tue Caïn, on le vengera cette fois. Et le Seigneur mit un signe, une marque, tu disais la marque, un signe sur Caïn pour que ceux qui le trouveraient ne l'abattent pas.
Alors, justement, cette marque, je vais te demander ton interprétation, mais ce qui est impressionnant, finalement, c'est que ce signe, Caïn était souvent vu comme le prototype du juif errant. Sur toutes les générations.
On entend dans cette phrase: tu seras errant et vagabond.
On l'entend. Condamné à l'errance et à l'exil. Il n'y a pas forcément de raison pour que tous les juifs soient condamnés à l'errance et à l'exil. Malheureusement, voilà, ça a été la déviation de cette interprétation biblique, je trouve. Et alors, quand il est le prototype du juif errant, il a un regard fourbe, un bonnet pointu, enfin, etc. Cette marque aussi dont Dieu a doté Caïn, elle a été utilisée par des thèses racistes, mais franchement racistes, du 19e siècle, notamment celle développée par Joseph Smith, qui est le fondateur du mormonisme aux États-Unis. Et donc, il explique très sérieusement, mais très très sérieusement, la peau de Caïn est devenue noire après la sentence de Dieu. Voilà, d'un coup, très bien. Et tout ce que tu as lu où on dit tu seras, si, tu, si on te tue, tu seras vengé cette fois, ça c'est passé à l'as. C'est-à-dire qu'on n'en parle pas, Caïn est uniquement un coupable qui est vraiment un très très méchant juif, quoi. En gros, c'est ça. Et donc, ce que tu as dit, il décrète qu'il sera vengé, cette fois. Et donc, ce qui est étonnant aussi, c'est que, alors, je ne suis pas allée voir les textes précis, mais apparemment, certains commentateurs juifs, en fait, ont décrit cette marque de Caïn, parce qu'ils emploient le mot marque, apparemment, comme une lèpre, une corne, un tremblement. Bon. Et les anti-judaïstes, au contraire, donc, ils voient les cornes des juifs déicides, quoi. Et toujours cette dimension de protection que moi j'ai entendu dans le texte que tu as lu, que tu viens de lire, est mise sous silence parce qu'au fond, bah, ça permet un antisémitisme de mauvais aloi, dirons-nous. Donc toi, comment tu la lis, cette marque, à moins que tu veuilles...
Non, mais je trouve très intéressant ce que tu pointes, parce que tu as raison, on en a fait de Caïn le prototype de celui qui est maudit. Et au fond, je pense que c'est une lecture qui ne prend pas toute l'épaisseur du récit. Caïn, il reçoit cette malédiction dans le récit. Il est clairement reconnu comme étant l'assassin de son frère Abel. Mais tout le récit ne se réduit pas à ça. Et quand tu parlais de lèpre, quand tu parlais de corne, eh bien, c'est déjà dans l'interprétation qu'ont fait les rabbins de ce texte.
D'accord.
Pour essayer de comprendre justement le signe, parce que le récit, il est... Mais c'est ça qui est génial avec les Écritures, ouais. C'est qu'il dit quelque chose, mais on aimerait tellement savoir plus, mais il n'y a rien.
Et c'est assez paradoxal aussi.
Oui, c'est
pourquoi lui mettre une marque qui va le sauver alors qu'on vient de le maudire, enfin, c'est quand même dérangeant. Voilà.
Alors, complètement, mais ça, c'est tout à fait dans la manière de Dieu. C'est-à-dire que ce mouvement que tu viens de pointer, on le voit déjà avec Adam. C'est-à-dire Adam qui est nu. Alors, où es-tu, Adam, et tout ça. Et puis, donc, il y a une malédiction qui est proposée. Et puis après, tenez, je vais vous donner des vêtements de peau pour que vous puissiez vous habiller. Donc, il y a déjà ce double mouvement avec Adam et Ève. Ouais. Et là, on retrouve ce double mouvement. Par exemple, pour la lèpre, effectivement, la lèpre, horrible maladie, il n'y a rien à dire. Sauf que, si on s'approche des lépreux, on contracte la maladie. Et donc, on pourrait aussi voir, et ça, c'est certains commentateurs qui l'ont souligné, que ce signe, la lèpre, peut être aussi une façon, en excluant Caïn, une façon de ne pas s'en approcher et de lui permettre de continuer accroupir, on va dire, dans son coin. L'idée de la corne, ça peut être aussi le symbole de puissance. Ça peut être aussi vu comme quelque chose d'une arme. Et que ce signe, ça pourrait être aussi une arme qui lui permette de se défendre des autres. Ou qui montrerait que justement, il a une force et une vitalité qui le rendrait dangereux. Donc, il ne faut pas trop s'en approcher. Donc, il y a plein d'ambiguïtés là autour. Et dès le début, il y a des interprétations qui disent ce signe, c'est un signe protecteur, pour que personne ne le tue, mais c'est aussi un signe qui peut l'exclure, qui peut le mettre au banc de la société. Et on oscille entre ces deux types d'interprétations. Ce signe, en gros, pour dire en un mot, il est ambivalent.
Voilà. C'est ça qui est très chouette dans le texte biblique, qu'on retrouve pas du tout dans... J'ai regardé les jeux vidéo et les séries, en fait. Donc, il y a un jeu vidéo qui s'appelle Vampire, de 91, et Caïn, c'est le premier des vampires. Ils descendent tous de lui, sans exception. Donc, c'est uniquement un vampire. Donc, vraiment, là, il est effectivement... Il renverse la malédiction. Il y a une série qui s'appelle Lucifer aussi.
Il devient dangereux.
Absolument.
Et c'est le symbole même du criminel. Le criminel, on en a peur. On en a peur. Et justement, il faut bien le repérer parce qu'on ne sait pas s'il va à nouveau, comme le vampire, nous mordre.
Nous mordre, exactement.
Et nous terroriser. Ouais. Donc, puissant, il est à la fois mis à part, mais en même temps, on s'en méfie, on tremble devant lui.
Oui, c'est ça, tout à fait. Il y a la série Lucifer aussi. Il y a Marcus Pierce, qui est le lieutenant de police, qui en fait se révèle être Caïn. C'est le premier meurtrier du monde et sa marque est une cicatrice, en fait. Il y a une dernière série qui s'appelle Supernatural. Caïn est un démon qui est sous la forme d'un chevalier de l'enfer et sa marque est une brûlure. Donc là, c'est plus univoque, en fait. C'est beaucoup plus intéressant ce que tu analyses.
Oh, t'es gentil, merci.
Non, mais si, c'est vrai.
Non, mais parce que, tu vois, ce qui me surprend dans toutes ces séries, c'est que Caïn est du côté du mal.
Complètement. C'est pour ça que ça m'a. C'est pour ça que je te les cite, parce que ça m'a frappé.
Il est du côté du mal, mais dans ses séries, il est aussi. Ben alors, tu disais qu'il est policier. Enfin, il a aussi des rôles, il a aussi une place dans la société. Et qu'au fond, on est dans une ambivalence. Et est-ce qu'on peut faire confiance à un Cain, hein? C'est peut-être la question qu'on pourrait voir, comment le récit répond à ça. Parce que dans le récit, Cain, il continue de vivre. Il y a une protection qui est... Alors, ce signe, c'est une protection. On va y venir, justement. Oui. Parce que j'ai trouvé une interprétation qui m'a vraiment ouvert les yeux sur quelque chose. Mais en fait, Cain, il a aussi un rôle constructif dans la société. Parce bien que sûr. Là, dans le récit, il est celui qui fonde une civilisation. Il est celui aussi qui est cultivateur. Donc, il n'est pas nécessairement méchant. Il n'est pas nécessairement du côté obscur. Il est aussi du côté du quotidien dans le récit.
Je ne sais pas si on écoute justement l'air de... Je pense de Léo Ferré, ça irait bien à ce moment-là, non?
Parce que ça en était à peu près à la moitié. Allons-y pour écouter l'air de Léo Ferré qui nous parle aussi de Cain. Parce qu'alors, c'est une histoire qui se retrouve partout dans notre culture.
Absolument.
Dors, bois et mange, Dieu te sourit complaisamment.
Race de Cain.
Dans la fange, rampe et meurt misérablement.
Race d'Abel.
Ton sacrifice flatte le nez du séraphin.
Race de Cain.
Ton supplice aura-t-il jamais une fin?
Race d'Abel.
Vois tes semailles et ton bétail venir à bien.
Race de Cain.
Tes entrailles hurlent la faim comme un vieux chien.
Race d'Abel.
Chauffe ton ventre à ton foyer patriarcal.
Race de Cain.
Dans ton antre, tremble de froid, pauvre chacal.
Race d'Abel.
Aime et pullule, ton or fait aussi des petits.
Race de Cain.
Cœur qui brûle, prends garde à ses grands appétits.
Race d'Abel.
Tu crois et broutes comme les punaises des bois.
Race de Cain.
Sur les routes, traîne ta famille aux abois. Ta charogne engraissera le sol fumant.
Race de Cain.
Ta besogne n'est pas faite suffisamment.
Race d'Abel.
Voici ta honte, le fer est vaincu par les pieux.
Race de Cain.
Au ciel monte et sur la terre jette Dieu.
Oui, c'était donc Léo Ferré qui chantait Baudelaire, pas vraiment dans une optique d'étude biblique, on va dire.
Ah, mais il y a une interprétation, il y a un message là.
Voilà, mais ce qui était intéressant, c'est effectivement de voir Cain comme un rebelle et en tant que tel, comme un homme droit sur ses jambes, quoi. Et voilà. Et Abel est un petit peu, bon, si vous me passez l'expression, un peu un petit faillot, voilà, c'est pas quelqu'un de passionnant.
Mais je le comprends, ça, voilà. Je le comprends, parce que quand on a tellement diabolisé Cain en disant qu'il était justement maudit, qui sera errant, vagabond, et puis que justement il a osé tuer son frère. On en a tellement fait le prototype
le
de
méchant.
Quelqu'un,
le méchant, Vélène. Ouais.
moi, je comprends cette attitude qui vient au fond réhabiliter Cain en disant au moins c'est un rebelle, moins il s'est pas laissé soumettre par la destinée, hein, ce jugement de Dieu au début qui privilégie le sacrifice de son frère aux dépens du sien, il n'a pas simplement accepté docilement ça, il s'est rebellé, et ça c'est typiquement l'attitude, je trouve, d'une figure de l'homme moderne qui veut s'émanciper de toutes ces tutelles qui le maintiennent asservi, esclave, docile. Donc, Caïn, mais simplement Caïn, il y a aussi cette ambiguïté, c'est que dans cette révolte, il peut y avoir quelque chose de destructeur, et pas nécessairement par rapport au frère qu'il tue, mais ça peut être aussi destructeur sur lui. On va y revenir. Et puis, de dire que Abel est le faillot, au fond, Abel, qui sait quoi, je pense que c'est aussi réducteur, parce que effectivement, il y a quelque chose d'évanescent, il prend la parole, on ne sait pas très bien qui est Abel, en fait. Alors, on peut, du coup, projeter sur lui plein d'idéalisations, mais ça, c'est aussi trop charger le récit. À mon avis, l'enjeu du récit, ce serait que Caïn et Abel puissent chacun avoir leur place et de les accepter comme étant deux éléments importants de chaque existence et qu'il n'y a pas à vanter l'un aux dépens de l'autre. Il faudrait arriver, et là c'est un conditionnel, je pense que ce récit, il nous dit « Ah, si seulement, dans l'histoire humaine, on pouvait arriver à dénouer cette opposition pour en faire une articulation, pour en faire quelque chose qui... une relation entre les deux. » Et ce sera, au fond, je crois, toute la sagesse biblique que d'essayer d'explorer cette possibilité en nous offrant d'autres récits par la suite.
Oui. Oui, tout à fait. Alors, Abel va être remplacé par Seth après. Donc, c'est entre Seth et Caïn, mais Caïn qui est loin et qui est parti, que devrait se faire ce que tu expliques, cette harmonie. Bon, enfin, c'est autre chose.
C'est ça. Ce sera pour d'autres histoires. Mais est-ce que tu es d'accord qu'on revienne sur cette idée de marque ? Parce que c'était là-dessus qu'on avait commencé notre échange. Hein, et je trouve très intéressant cette notion de marque. Donc le verset, c'est le verset 15 du chapitre 4 du livre de la Genèse. « Le Seigneur mit un signe sur Caïn pour que ceux qui le trouveraient ne l'abattent pas. » Souvent, ce signe a été vu comme une marque infamante que l'on applique à un criminel. Au fond, on lui rase le crâne, on lui met un tatouage pour que même s'il se libère, il se rappelle qu'il a toujours été criminel. Et puis après, comme ça, tout le monde se rappellera, même quand il aura purgé sa peine, tout le monde se rappellera ce qu'il a fait un jour.
C'est un stigma, quoi, vraiment.
Oui, c'est ça. Hein, on pourrait l'entendre comme ça. Mais, le texte est beaucoup plus complexe que ça. Sais-tu comment, dans le texte hébreu, quel mot hébreu est utilisé pour signifier, pour ce mot signe ou marque ?
Non.
C'est le mot ot. Ot. Et en hébreu, les mots ont souvent plusieurs sens possibles.
Oui.
Et il y a un autre sens possible de ce signe, de ce mot ot. Sais-tu ce que c'est ?
Non. Alors ça, alors.
C'est le mot lettre.
Ah !
Et donc, on pourrait tout à fait traduire en disant « Le Seigneur mit une lettre sur Caïn. » Une lettre. Alors, pas une lettre postale et tout, mais une lettre de l'alphabet. Et Rashi, qui est un commentateur juif du Moyen-Âge, Rashi de Troyes, rabbin de son état, de la ville de Troyes en France, et en fait, il a écrit des commentaires du Pentateuque qui sont remarquables et encore aujourd'hui, qui sont très très riches d'enseignements, et qui fait autorité dans le judaïsme. Eh bien, Rashi a commenté ce verset en disant « Le Seigneur grava sur le front de Caïn une lettre du nom de l'Éternel. » C'est-à-dire que tu sais qu'en hébreu, sais-tu qu'en hébreu, on ne prononce jamais, quand apparaît le mot Dieu, ces quatre lettres, c'est le tétragramme, on appelle ça, Yod, He, Vav, He, ces quatre lettres, et quand ces quatre lettres apparaissent, au lieu qu'on lise Yod, He, Vav, He, on dit Adonai en hébreu. Et Adonai, ça veut dire mon maître, mon Seigneur. C'est un signe de révérence, c'est un signe de respect. Et donc, ces quatre lettres, les interprètes, les commentateurs juifs, on en extrait un sens infini. Ces quatre lettres sont très importantes. Et en fait, dans ce geste-là, c'est de dire, on ne met pas la mainmise sur Dieu. Quand on arrive devant ces quatre lettres, eh bien, on a perdu la manière dont il faut le prononcer, et c'est très bien ainsi.
C'est indicible, finalement.
C'est indicible. Ouais. Et en fait, on ne peut que marquer un signe de révérence, d'ouverture au transcendant, en disant « Mon Seigneur ». Donc là, le Seigneur met un signe sur une lettre. Rashi dit ben, « C'est une des quatre lettres du tétragramme ». Alors, on pourrait aller très très loin dans cette interprétation, parce que quelle lettre peut-être. Et puis, il y a eu plein d'hypothèses parce que le iode, eh bien, c'est la lettre créatrice. Enfin, chaque lettre a une symbolique. Mm. Bon, on pourra faire ça dans une prochaine interprétation. Ouais. Mais ce que je trouve intéressant, si on essaye d'en retirer la substantifique moelle de cette hypothèse, eh bien, c'est que en tuant son frère, Caïn, il a terni sa vocation. Quand l'humain a été créé, il est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mmh. Et en fait, dans le récit de Genèse, du début de la Genèse, Dieu créa l'homme, il souhaite créer l'homme, l'humain, à son image et à sa ressemblance, et il les créa à son image, et on ne met pas la ressemblance dans la deuxième partie. Comme pour dire que l'aventure humaine, c'est que l'humain, il a été créé à l'image de Dieu, mais l'humain, il doit accéder à la ressemblance. Et qu'au fond, l'histoire que nous avons devant nous, les jours qui nous sont donnés, le temps que nous avons à passer sur cette terre, a pour but que advienne la ressemblance. Nous avons reçu l'image, mais il faut qu'advienne la ressemblance par les échanges, les interactions, les relations que nous tissons les uns avec les autres. Nous nous ouvrons à la transcendance, nous recevons de la transcendance, cette ressemblance, et ainsi nous devenons des personnes uniques, singulières, dont la beauté se lit sur chaque visage. Donc ça, c'est au fond le projet de la traversée du temps qui nous est donné. Alors, qu'a fait Caïn ? C'est qu'en tuant son frère, il a terni ce projet. Il est toujours à l'image de Dieu, mais la ressemblance, il y a quelque chose qui s'est grippé, il y a quelque chose qui a été comme neutralisé là. Il a été dominé par la jalousie, dominé par la convoitise. Et il est devenu bestial. Hein. Dans le récit, c'était le péché est tapis à ta porte. C'était la parole de Dieu qui lui disait, mais toi, prends ascendant sur cette bestialité. Et en fait, Caïn s'est laissé dévorer par sa jalousie qui est devenue une pulsion bestiale qui aboutit à l'assassinat de son frère. Et or, la lettre qui est posée sur son front lui redonne la lettre du tétragramme, une des lettres du tétragramme, lui redonne cette ressemblance en lui disant, eh bien, ta vocation, elle reste là. C'est pas parce que il y a eu crime que toute ta destinée est gâchée. Tout ton temps sur terre est complètement devenu caduque, quoi. Il sert plus à rien. De toute façon, t'as raté. Hein. Ouais. Et puis maintenant, tu vas payer toute ta vie pour les fautes que tu as ratées. Non, c'est pas ça. C'est que le signe vient lui rappeler que la ressemblance, elle est toujours là. Et c'est toujours une vocation qui t'est adressée. Alors à toi, justement, ce signe qui est marqué là sur toi, à toi de le laisser te rappeler cette vocation et que cette vocation puisse te faire que cette ressemblance advienne en toi. Donc, ça pourrait être une piste. Il n'a pas perdu la possibilité de, un jour, accéder à la ressemblance.
Ouais. Et le fait que ce soit une marque, ça, moi je trouve ça intéressant avec cette interprétation-là, parce que la marque, elle est visible par les autres. Donc ça nous donne l'idée que justement, il y a toujours une étincelle divine ou de rachat en tout cas dans n'importe qui. Et bon voilà, ça fait partie des interrogations qu'on a actuellement sur les prisonniers, etc. C'est vraiment une façon de voir l'humain dans toute personne, quoi.
Et écoute, c'est lumineux ce que tu dis parce que Rashi dit que la lettre, elle est sur le front. Or, es-tu d'accord que je ne peux pas voir ce qu'il y a sur mon front ?
Non.
C'est soit un miroir qui me le redit, soit quelqu'un d'autre.
Autrui. Voilà.
Et en fait, l'enjeu, c'est-à-dire qu'au lieu que le tatouage rappelle que je suis un paria et que je le vois, ce tatouage qui me le rappelle à moi, la marque, il faut que ce soit quelqu'un d'autre qui me dise « Tu es à la ressemblance de Dieu. » Et qu'en fait, un prisonnier, je crois que... ou toute personne qui vit dans une culpabilité ou qui a commis des actes qui sont répréhensibles, toute personne a besoin d'un autre regard que propre regard pour ce qu'on lui rappelle. Tu es toujours appelé à accéder à la ressemblance. Tu es toujours appelé à faire advenir de l'humanité en toi. Et cela, moi, je le vois pas. Et c'est parce que l'autre le voit sur mon front qui me le rappelle. Il faut qu'il y ait dialogue, il faut qu'il y ait contact pour réveiller cette vocation chez l'autre, qu'entre l'autre est trop abattu ou trop enfermé ou trop neutralisé dans la culpabilité de ce qu'il a fait, de ce qu'il a raté, de toutes les erreurs qu'il aurait pu commettre.
Oui, ça.
Mais ça, c'est qu'une interprétation, Babette.
Oui, mais ça me plaît bien, celle-là.
Ça te plaît ? Oh,
ah
bah,
oui,
tant
elle
mieux.
Est très, très bien, effectivement.
Mais tu me diras si ça ne te plaît pas, quand même.
Oui, je dirais, tout à fait.
Alors, d'autres commentateurs juifs ont dit que la lettre mise sur Caïn, ce n'était pas nécessairement une lettre du tétragramme de Dieu, mais c'est la lettre Tav, c'est la dernière lettre de l'alphabet. Et alors là, on arrive dans un autre monde.
Ah.
Est-ce que tu as envie qu'on explore
oui,
ça?
Oui, tout à fait.
Alors, dans la symbolique juive, la dernière lettre de l'alphabet, c'est aussi la lettre de la mort.
Ah.
Pourquoi? Parce que c'est la lettre qui clôt l'alphabet. Et la mort n'est pas vue comme étant un châtiment horrible, mais c'est vu comme une clôture, c'est vu comme une limite. Voilà, c'est la fin de l'alphabet. Avant qu'il recommence, il y a le Tav.
D'accord.
Donc là, c'est de rappeler à Cain deux choses. Donc, la lettre de la mort, on pourrait dire, la mort qui nous fait peur, la mort, c'est aussi de dire, il a produit la mort en assassinant son frère. Et puis, c'est aussi, il est aussi limité, Cain. Il n'a pas été capable de prendre l'ascendant sur la bestialité en lui. Donc, il est limité. Il a été placé face à sa limite, face à sa clôture à lui. Et donc, des fois, on s'imagine qu'on pourrait être tous des grands Nelson Mandela, Martin Luther King, qui sont généreux et tout. Et puis, en fait, quand on voit des fois nos actes, on est confronté à nos limites, aussi à nos propres frontières clôtures. Donc c'est intéressant, ça. Et ce que j'ai découvert, c'est que dans l'hébreu ancien, le Tav, il pouvait aussi s'écrire en forme de X. Voilà, ça c'est la calligraphie hébraïque qui correspondrait à une sorte de X pour nous aujourd'hui. Hein. Et ce X, à quoi il te fait penser là? La lettre X, à quoi te fait-elle penser?
À une croix de Saint-André, mais ça ne doit pas être ça.
Mais c'est ça.
Si.
C'est qu'il y a certains pères de l'Église, parce qu'il y a eu beaucoup de commentaires sur ce signe, mais certains pères de l'Église ont dit, mais c'est le signe de la croix. C'est le signe de la croix. Et la croix, quand on y réfléchit, c'est aussi quelque chose d'ambivalent. C'est-à-dire que c'est l'instrument de torture, c'est le supplice, c'est le meurtre d'un innocent. La croix, c'est devenu un emblème pour les chrétiens et tout, un signe sacré, religieux et tout. Mais à l'origine, c'est comme si on mettait une guillotine autour du cou.
C'est une punition romaine, en fait. Oui,
c'est une punition, c'est un châtiment et un supplice aussi. C'est une mort atroce et horrible. Or, là, le Tav pouvait s'écrire sous une forme qui ressemblait à la croix. Et certains pères de l'Église ont dit, mais c'est en fait le signe de la croix. Et donc, la croix qui a aussi plein de sens, parce que symbole de torture, mais aussi symbole de l'amour inconditionnel de Dieu. Parce que dans ce moment tragique de l'existence de Jésus, il y a quelque chose qui s'est révélé, c'est que au lieu que les forces de bestialité engloutissent complètement le Christ, et puis finalement, après, effacent l'horreur de ça en disant « il était tellement méchant, on a eu raison de le tuer
oui. »,
au lieu que ce discours-là domine, la croix est révélatrice d'un amour inconditionnel, où, au pied de la croix, même le centurion romain dit « cet homme était le Fils de Dieu ». C'est-à-dire qu'il prend conscience que lui-même qui a participé à l'exécution de cet homme, qui a participé à tout le système qui a abouti à la mort d'un innocent, même cet homme prend conscience qu'il y a autre chose qui s'est joué et qui a mis une limite...
Une clôture
à une violence organisée où, on va le dire autrement, quand les institutions déraillent, il y a eu une force plus grande que ça pour rappeler que cet innocent reste innocent. Et qu'on a beau vouloir construire tout un discours qui innocente les coupables, parce qu'il y a tout le discours institutionnel qui vient les porter, qui vient les légitimer, qui vient les excuser et tout, eh bien, il y a une force plus profonde, plus lumineuse, qui rappelle une vérité, l'innocent reste innocent. N'empêche que ce discours vrai, au lieu qu'il soit prononcé par un juge qui vient condamner tout le monde, qui vient du coup châtier tout le monde, parce que tout le monde est coupable dans ce problème de la croix du Christ, eh bien le juge, il se révèle être comme une force de grâce. Il se révèle comme étant quelqu'un qui dit « rappelle-toi de ça, on n'efface pas la croix, on n'efface pas le meurtre, on n'efface pas l'innocent qui disparaît, on n'efface pas Abel de la terre des vivants, rappelle-toi ça. Mais rappelle-toi aussi que tu es appelé, au milieu de tout ça, tu es appelé à accéder à la ressemblance, tu es appelé à devenir plus humain, et du coup, l'histoire continue, et je te porte, j'intègre tout ça, donc c'est la voix de Dieu, hein,
ouais.
J'intègre tout ça dans mon projet pour qu'un jour tu puisses accéder à la ressemblance en étant ouvert à la vérité, mais aussi conscient que tu es aimé de manière inconditionnelle. Mmh. Et en fait, la croix, elle révèle ça. Hein, à la fois le supplice et à la fois l'amour inconditionnel dont on est aimé. Et le signe de Caïn, d'une certaine façon, je le vois comme étant une préfiguration de la croix. C'est-à-dire que Caïn, qui est un meurtrier, Caïn qui est maudit, qui est promis au vagabondage et à l'errance, il n'empêche qu'il y a un signe qui est posé sur lui par Dieu pour lui rappeler que même ça ne coupe pas sa relation avec Dieu. Et que dans tout ce qu'il a à vivre, quand il dit « Oh, ma faute sera trop lourde à porter, mon châtiment sera horrible », il se voit passer toute sa vie à errer, à être... Eh bien, il y a un signe qui lui rappelle que dans cette vie-là, il n'est pas abandonné. Il est peut-être au banc de la société. Ce ne sera pas un chemin facile et tout. N'empêche, il n'est pas abandonné. Il continue à être relié à Dieu et Dieu continue à se relier à lui pour lui permettre, au travers de toutes ces épreuves, d'avoir suffisamment de ressources, d'avoir suffisamment de lumière pour construire quelque chose avec tout ça. Et que ça le rende conscient et plus fraternel pour qu'un jour il accède pleinement à la ressemblance.
Oui. Oui, c'est très intéressant. En plus, ça fait un pont avec le Nouveau Testament, ce qui serait très bien. Et d'ailleurs, dans la deuxième partie du texte, qu'on n'aura pas le temps d'aborder vraiment de façon intéressante, enfin, on va dire un peu longue, il sera celui qui bâtira la première cité terrestre, Caïn.
Tout
même.
À fait.
Donc, il est effectivement accompagné, cette cité terrestre qu'il nommera Enoch, du nom de son fils. Il aura une très nombreuse descendance. C'est lui qui peuplera la terre, même si, bon, à partir de Lémèque, apparemment, ils sont très marqués par la polygamie, la violence. Mais enfin, quand même, dans sa descendance, il y aura des musiciens et des forgerons. C'est ce qu'on avait dit aussi, l'art et la technique. Quoi. Donc, c'est la marge de la civilisation à la ressemblance de Dieu, effectivement. Donc, moi, je trouve ça très, 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 très intéressant comme interprétation.
Mais tu vois, quand tu dis qu'il y a des forgerons et des musiciens, moi, ce que j'avais découvert, c'est qu'en fait, on associe souvent les forgerons du côté de Caïn et les musiciens plutôt du côté d'Abel.
Tout à fait.
Et qu'en fait, dans les villes, si dans les villes que construit Caïn, il y a des forgerons et des musiciens,
et
c'est parce que peut-être, ça c'est une interprétation que je propose, c'est que parce que Caïn fait une place à Abel dans les villes qu'il construit. Et les villes où il n'y a que des forgerons, c'est-à-dire que des personnes qui maîtrisent et qui arrivent à extraire de la terre du fer et en faire des constructions solides, là c'est l'homme constructeur, l'homme qui domine, hein. C'est bien, ça permet de construire des villes de plus en plus complexes, mais dans ces villes, pour qu'il y ait une âme, il faut qu'il y ait des musiciens. Il faut qu'il y ait des Abel qui soient là pour apporter aussi une âme, un sens, un rapport à l'autre, une culture où on n'est pas simplement dans la domination et dans la maîtrise, mais on est aussi dans l'ouverture et dans l'accueil.
Tout à fait. Je pense que ça peut être le mot de la fin de cette émission. Donc nous allons juste écouter à la fin de l'émission un extrait de un extrait de son album qui s'appelle Descendants of Caïn et qui relie en fait le problème de Caïn entre les grands frères et les petits frères dans les cités et les deals de drogue. Je trouve ça montre comme ça, c'est vraiment un mythe qui interroge encore de nos jours beaucoup. Voilà.
Au plaisir de vous revoir, hein, et Babette, on continue.
On continue, oui. La prochaine fois, c'est quoi, Isaac et Abraham ou non, autre chose.
On verra pour l'inspiration, mais en tout cas, on donne rendez-vous aux auditeurs.
Cain, where is Abel, my brother?
I know not. Am I my brother's keeper?
Question Cain asked God was, am I my brother? I see him a survivor. To be a pro, so when I grow, I'm a provider. If you a king, esteem a queen. Don't deprive her. Make sure she the truth. Don't confide in a Delilah. You know she want the main cut. Fast as you can, slide curve her. Get the change up. With the great odds, moms call me chaos. The name stuck. Survived the illest setting with skill and blessing. It ain't luck. And my brothers. And my brothers. Keeper of the faith. In the street, used to keep it on the waist. Had enough grief, and I wish to keep it in the safe. The demons been eating, my people need a taste. We did any dirt and it was pertinent, cause we ain't even trace. Lights off, friends remain the aim. They rejected like grains of cane. Cops speak fly, they saying it's plain. Perhaps they no match, cause we was playing the flame. Every morning show you saw the exercise. Defensive pose for foes, I don't recognize. Respect due to those who step two, never step aside. Always on watch for wolves, I got shepherd eyes. Am I my brothers? Am I my brothers? Keep on. For brushes with the Lord, they're combing streets. Infested to justice, got the throne of fleece. Want a shot at the pie, better own a piece. This ain't for sport, once it's caught, we don't release. My birthright like a Sumerian. Made it out the belly with my cut like a cesarean. For girls robbing with hoods, he wasn't every man. And recall a second we balled, we got hairy then. Cause sleep, raising the land and nod. Every girl's abused, every man was scarred. They spit and tell ain't sitting well, can't stand facade. Whoever held a hammer, had a hand of God. To grip a pearl in a wicked world, not every jewel written. That shit on your bird, if you're a stool pigeon. Each page can tell I'm engaged, every jewel given. Life can end days fighting men, so at night duel women. Am I my brothers? Am I my brothers?
Of Cain was multiplied 1,000 times.